des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Le commentaire de
Sophie Durocher. Des idées pas comme les autres.
Salut Sophie.
Bonjour Philippe-Vincent, est-ce que tu te souviens, il y a quelques années, Pascal Beausoleil avait fait paraître un livre qui s'appelait « Les chrétienneries ».
Oui.
Ça a été vraiment un très bon vendeur, ce qu'on appelle évidemment communément un best-seller. Pascal s'était amusé simplement à ramasser les déclarations les plus nounounes, les plus niaiseuses, les plus incongrues de gens chrétiens. Et tu lisais ça, puis tu disais, ben non, c'est pas vrai, il en a inventé. C'était toutes des vraies citations de Jean Chrétien, plus cocasses et plus hallucinantes les unes que les autres. Pourquoi je te parle de ça ce matin? Parce que quand il est allé à Tout le monde en parle dimanche soir, Jean Chrétien a dit tellement des énormités qu'on avait l'impression que c'était un sketch de RBO. Et le fait que Guy Lepage est l'animateur de Tout le monde en parle, on avait quasiment l'impression qu'il faisait lui aussi partie du sketch. Écoute, je vais te faire écouter deux extraits. En tout cas, je vais te situer le contexte, OK?
Ouais.
Évidemment, Jean Chrétien, on le sait, il a été premier ministre du Canada, mais il a aussi été pendant plus de 6 ans ministre des Affaires indiennes. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Et donc, évidemment, avec tout ce qu'on sait maintenant sur ce qui s'est passé dans les pensionnats, les sévices, des enfants morts, des fausses communes et tout ça, c'était évident qu'on allait lui poser des questions là-dessus. Et sa réponse est à tombé en bas de sa chaise. On va écouter deux petits extraits du passage de Jean Chrétien, Tout le monde en parle.
J'ai été pensionnaire, moi, de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 21 ans. Alors, j'en ai mangé des fèves au lard et du gruau. Et c'est sûr que c'est difficile, la vie de pensionnaire. Extrêmement difficile.
Mais vous avez jamais entendu parler d'histoire dans les pensionnats autochtones? Il n'y avait même pas de rumeurs, là, du tout?
Non. Et d'ailleurs, moi, j'ai jamais eu un problème. Je devais être pas joli petit garçon, j'imagine. Mais j'ai jamais eu entendu parler de ça pendant les 8 ans que j'étais au collège. Ou à Joliette, ou à Trois-Rivières, ou à Chamonix.
Ben, vous êtes... Ben, tant mieux pour vous, en fait.
Ben, tant mieux pour moi, je suis bien content.
Tant mieux pour moi, je suis bien content. Écoute, je ne peux pas te dire à quel point je trouve ça choquant, et je suis pas la seule, hein. Je veux dire, des communautés autochtones partout à travers le pays. Au Canada anglais, tu peux pas compter le nombre de textes, de réactions de gens qui sont outrés pour deux raisons. Premièrement, il y a plein de gens dans notre propre journal aussi. Ma collègue Anne-Carine Desplanques est allée retrouver des traces comme quoi, même sous son nez...
Il s'était fait poser des questions, genre des communes là-dessus.
Puis à là-dessus, que je veux dire, dans sa propre circonscription et tout ça. Donc, déjà, le côté qui disent « je ne savais pas, j'étais pas au courant, à mon ministère, on ne le savait pas », déjà, c'est une énormité. Mais écoute, analysons 2 secondes, OK? Depuis des semaines, depuis des mois, on est sensibilisé à la cause autochtone comme jamais. Quand on déterre des tombes et qu'on se rend compte qu'il y a des dizaines et des dizaines d'enfants qui ont disparu, que leurs parents n'étaient même pas au courant que leur enfant était mort, dans quelles circonstances ils étaient morts, quand on sait tous les sévices physiques, les sévices sexuels, vraiment énormes qui ont eu lieu dans les pensionnats, puis lui on lui pose une question puis il dit ouais ben c'était pas drôle hein, moi aussi j'en ai mangé des fèves au lard puis du gruau, mais je veux dire, ça dépasse l'entendement, c'est même plus un manque de sensibilité, c'est une déconnexion humaine. Comment peux-tu, alors qu'on te parle de petits enfants qui ont vécu dans leur chair,
qui sont morts là,
mais qui sont morts et qui sont morts après avoir subi des sévices innommables, lui, soit il a pas compris la question, ce qui est inquiétant, soit il a parfaitement compris la question et il essaye de faire dévier ça en comparant la souffrance des enfants autochtones au fait que lui aussi, il est allé dans un pensionnat puis qu'il a fallu qu'il mange du gruau et des fèves. Moi, je ne comprends pas que sur le plateau même, qu'il n'y ait pas eu de plus de réactions outragé, puis il a fallu attendre que notre collègue Michel Jean, qui est interviewé à la même émission, réagisse. Mais comment se fait-il que les animateurs, que les gens qui étaient sur le plateau, lui aient pas coupé la parole pour lui dire, Monsieur Chrétien, ce que vous dites est absolument imbuvable, c'est absolument hallucinant. Et quand on lui parle des sévices sexuels, lui il dit ah ben moi ils s'en sont pas pris à moi parce que je devais pas être assez beau garçon. Hey, c'est pas de ça que qu'on te parle. On te parle pas des sévices sexuels qui avaient lieu dans les pensionnats catholiques où des petits garçons se faisaient tripoter. On te parle des pensionnats autochtones et c'est documenté. Puis il faut vraiment avoir été sur une autre planète pendant les 10 derniers mois. Je veux dire, pour pas savoir ce qui s'est passé, puis pour pas avoir une once de compassion pour les victimes, de dire « Oh ben moi, il m'est rien arrivé, fait que c'est pas grave. » Philippe Vincent, je veux dire, écoute, je capote.
Je l'entends pas. Et je sais que t'es pas la seule. Parce que sincèrement, je pense qu'il y en a beaucoup en écoutant cette entrevue-là que la mâchoire a décroché, là.
Ben la mâchoire a décroché, puis est-ce que j'ai de la difficulté à comprendre aussi la façon dont Radio-Canada déroule le tapis rouge pour Jean Chrétien. Donc je te parle de ça, tout le monde en parle dimanche soir, où je disais très une entrevue extrêmement complaisante. Et là, à son émission littéraire, Marie-Louise Arsenault reçoit Jean Chrétien. Écoute, il y a des publicités dans les journaux pour nous annoncer. Je veux dire, je sais pas c'est quand la dernière fois qu'elle a fait une publicité dans les journaux pour nous annoncer qu'elle avait un invité à son émission de radio. Puis là, on nous annonce à pleine page dans les journaux qu'elle fait une entrevue avec Jean Chrétien, qui a toujours bien juste sorti un livre. C'est pas comme si c'était un grand... C'est pas Margaret Atwood, c'est pas Michel Tremblay qui sort un livre, là. C'est pas un grand auteur de la littérature canadienne, que je sache Jean Chrétien. Je sais pas ce qui se passe à Radio-Canada face à Jean Chrétien. Puis cette complaisance, alors qu'il tient des propos absolument inacceptable, et je pense que, tu sais, je veux dire, il a pas retenu de leçon. Justin Trudeau, le jour de la réconciliation, s'en va se promener sur la plage au lieu d'aller se recueillir avec les gens à Kamloops de la communauté autochtone. Je veux dire, il a pas lu les journaux, Jean Chrétien. Il sait pas que, à un moment en ce moment, il y a une hypersensibilité à la cause autochtone et qui est tout à fait justifiée. Je dis pas qu'elle est pas légitime, bien au contraire. Mais je veux dire qu'il aille tenir ces propos-là. Je sais pas, peut-être il a pas lu les journaux pendant les 12 derniers mois. Joyce Echaquan, ça lui dit-tu quelque chose? Je suis complètement outrée. Vraiment, là, je n'en reviens pas. Et comme tu le dis, je suis pas la seule. Parce que du côté du Canada anglais, c'est rempli. Il y a Charlie Angus, par exemple, qui est député du NPD, qui a sorti des lettres qui ont été envoyées par des gens de la communauté autochtone au ministère de Jean Chrétien pour attirer son attention au pensionnat Sainte-Anne, la situation, les sévices qui avaient lieu là. Puis lui, non, je me souviens de rien. On a l'impression que c'est un témoin à la commission Charbonneau. Ah, non, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça.
Commission Gomery.
Oui, voilà, oui, exactement, la commission Gomery sur le scandale des commandites. Très, très bon point. Et c'est là, on reconnaît là le gars qui est vite en politique fédérale. Bravo, Philippe Vincent.
Et un petit mot, là, sur le gouvernement qui a payé $1 million aux non-vaccinés pour aller se faire tester en avril et en octobre. Ça, c'est 900 000 juste pour un CI US-3S, là, dans l'est de Montréal.
Alors, c'est Radio-Canada qui a appris ça. Écoute, on sait que depuis le mois d'avril, il y a un arrêt ministériel qui force les travailleurs de la santé qui ne sont pas vaccinés à subir 3 tests de dépistage par semaine. Quand ils peuvent, évidemment, ils le font sur leur lieu de travail. Quand ils ne peuvent pas, le gouvernement, le CIUS, donc, leur donne des sous pour qu'ils puissent aller se faire tester en dehors du travail. Ça a coûté, dans le cas de celui de l'Est de l'île de Montréal, $900 000. Donc, ça s'est arrêté en octobre. À partir du 16 octobre, cette pratique-là est bannie parce qu'on considère que, vu que on s'en va vers une vaccination obligatoire, on est quand même pas toujours même pas pour te payer pour que t'ailles te faire tester. Mais tu te souviens, quand on a parlé de la date du 15 octobre, je te disais, on devrait exiger de ces gens-là qui sont non vaccinés et qui se font tester, qui payent de leur poche pour aller se faire dépister. Mais, en ce moment, non seulement on paye pour le test de dépistage, mais on les paye. On leur donne en fait, on récompense ceux qui ne se plient pas à la loi. C'est quand même assez hallucinant. Et après ça, il y a des gens qui ont le culot de nous dire qu'on est trop vilain, qu'on n'est pas assez gentil avec les non-vaccinés. Je trouve qu'on est très, très, très patient. On est tellement patient que de avril à octobre, on leur a versé $1 million pour qu'ils puissent aller se faire vacciner puisque peuvent pas le faire pendant leur temps de travail. Hein. Il faut qu'ils se déplacent, les pauvres petits minous. C'est pas drôle pour eux. Hey. Je veux pas me faire vacciner. Je travaille dans le milieu de la santé, par exemple. Je connais ça, la santé. Mais je veux pas me faire vacciner. Puis c'est nous, les ploucs de contribuables, qui leur payons du temps supplémentaire pour qu'ils aillent se faire dépister à hauteur d'1 million de dollars. Vraiment, c'est les deux bras m'en tombent.
Mais ramasse-les, Sophie, t'as une émission à faire tantôt. Salut, bonne journée.
Merci, à demain.
Salut, Richard.
Salut, Philippe-Vincent. Écoute, Gilles Proulx, à qui je parle tous les jours, dit toujours, Denis Coderre n'a pas tellement changé. Je crois pas à Denis Coderre 2.0, c'est tout le temps le même Denis Coderre. Donc, M. Coderre dit en entrevue que maintenant, il sait faire la différence entre détermination et arrogance. Tu viens de le recevoir, qu'est-ce que t'en penses?
Ben, plus posé quand même, mais moi, j'ai quand même l'impression que c'est le même politicien qui est bon, qui aime ça, la politique, qui connaît... C'est un politicien aguerri.
C'est un personnage.
Aussi.
Vraiment.
Ah, fascinant.
C'est quelqu'un, là, il est venu au monde. Si tu le vois, là, à 7 ans, il voulait être politicien. Je suis convaincu. Là. Il y en a des comme ça, là, tu sais, là.
Ah non, c'est... Il est né pour ça. C'est comme, sincèrement, il est tombé là-dedans quand il était jeune. Là. Il adore la politique, ça s'entend. Et c'est vrai qu'il est plus calme. Qui a quand même compris de pas pogner une aire.
Ouais.
Qui a compris que ça, les gens l'aimaient un peu moins.
Mais en même temps, pas un dollar. Je ne miserais pas un dollar sur le résultat de l'élection
de
Montréal.
Super,
je sais vraiment pas sur ça va être pile ou face. J'en ai aucune idée. Il a l'air confiant. Évidemment, tous les politiciens,
tous les politiciens sont
comme
confiants.
Je viens de le croiser et dis, ah, ça sent bon, ça sent bon.
C'est pas tant mieux. Tant mieux pour lui. Peut-être un peu moins dans le parc Émilie Gamelin. Salut Richard.
Salut.
Merci à tout le monde. On se retrouve demain.